des concerts à volo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat.
Débat. Débat sur Radio Esperanza. Débat. Débat.
Le Brexit, le TTP, c'est pas vendeur et pourtant il y en a qui viennent en parler et moi je suis trop contente. Et donc le débat aujourd'hui, c'est que finalement les Britanniques ont quitté l'Union Européenne, ou du moins voté le Brexit, non pas pour sortir de l'Union Européenne parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt, mais c'est surtout pour ne pas voter le TTIP. Pour en parler aujourd'hui pendant une demi-heure, eh bien présentez-vous autour de la table.
Ok, moi je suis Rémi du CADTM. Donc le CADTM, c'est le désormais Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. On vient de changer de nom.
De la dette du tiers-monde.
Avant, c'était annulation de la dette du tiers-monde. Et pour faire très court, c'est parce que la problématique de la dette maintenant est aussi présente au Nord. On l'a vu en Grèce, on le voit encore, même si les grands médias n'en parlent plus, malheureusement. Et donc, en plus, maintenant, on a changé annulation pour abolition. C'est aussi, du coup, pour aller encore plus loin, pour dire justement qu'on est tout à fait contre ce système dette et que nous ne devons rien, nous ne paierons rien. Voilà.
Et donc, vous avez réussi à trouver un intitulé qui garde le CADTM.
Alors, pas exactement, parce que sinon, le sigle, ça devait faire CADI, mais du coup, on a conservé CADTM, qui est connu et reconnu. Et par contre, voilà, on a changé, on va dire, l'intitulé. Mais la lutte est par contre toujours la même et continue. Voilà.
À côté de toi, il y a...
Moi, je m'appelle César et je suis donc militant du CADTM. Et je viens en tant que bénévole à Esperanza. Et je suis de près tout ce qu'ils font depuis un petit temps. Et je ne parle pas assez près du micro.
Ah, c'est beaucoup mieux.
Voilà.
Et à ma gauche...
Camille, de TTIP Game Over. Camille, parce qu'on a tous le même nom en tant que porte-parole pour garantir l'anonymat et garantir l'horizontalité dans le groupe. Donc on est un collectif qui fait un appel à des actions de désobéissance civile contre les traités de libre-échange, dont le TTIP, le CETA et d'autres.
Et donc Camille, c'est bien, en plus c'est féminin et masculin.
Exactement, c'est pour ça qu'on l'a choisi.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Et Leslie à la technique. Donc voilà, alors le Brexit, est-ce qu'il faut encore rappeler ce que c'est? On peut vite peut-être, l'un de vous, en quelques mots, le Brexit.
Il y a eu un référendum au Royaume-Uni pour savoir si les Royaumes-Unis allaient rester, oui ou non, dans l'Union Européenne. Et c'est le non qui l'a remporté. Et donc, j'ai bien compris, aujourd'hui, on va essayer de faire le lien entre... ces cas-là, et peut-être voir les raisons peut-être qu'il y a derrière, et voir si les négociations sur le TTIP ont eu un impact, mais aussi après, peut-être concrètement, qu'est-ce que ça va jouer pour les négociations qui sont en cours, et puis pour d'autres comme le CETA, là, les négociations sont terminées, on a une phase de signature, ça a aussi d'autres impacts.
Voilà, donc oui, en effet, les Britanniques n'ont pas voté le Brexit pour sortir du TTIP, pour ne pas signer le TTIP, c'est clair. Mais il y a quand même un lien qu'on peut voir entre les deux. Le Royaume-Uni est quand même, mine de rien, le plus gros partenaire commercial européen avec les États-Unis. Donc il y a quand même, du coup, dans les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis par rapport au TTIP ou avec le Canada, avec le CETA, du coup, il y a quand même j'imagine, il va y avoir une remise à niveau. Quelque part,
moi je pense qu'il faut replacer le Brexit dans le contexte européen des aveux de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que dans tous les pays de l'Union européenne, il y a une colère qui monte contre cette Europe néolibérale. Et les traités de libre-échange, les négociations de traités de libre-échange sont un de ces aspects de politique néolibérale qui vont impacter énormément les gens, qui vont augmenter les inégalités, qui vont toujours donner plus de pouvoir aux 1%. Et donc je pense que clairement les négociations sur les accords de libre-échange ont joué en faveur du Brexit parce que les gens en ont marre de cette Union européenne-là.
Alors, si on en revient, il y a un son un zzz, qui est très fort. Mais je pense que... Peut-être éteindre la lumière 2 minutes. Non, c'est pas ça. Bref, on trouvera pourquoi ça... Je sais pas, moi, ça me brille les oreilles. Donc voilà. Bref, si vous entendez un petit sifflement, on cherche... C'est pas... Ben voilà, c'est parfait. Il n'y a plus de sifflement dans nos oreilles. Ça va donc déjà beaucoup mieux. Donc ces traités de libre-échange déjà, donc c'est l'Union européenne qui les négocie. Alors ça marche comment en fait au niveau de l'Union européenne? Parce qu'on sait que l'Union européenne, ce n'est pas une entité, c'est quand même, enfin c'est une entité avec plusieurs entités dedans qui gardent une certaine souveraineté. Alors comment ça marche justement quand l'Union européenne veut signer un traité pareil?
Déjà, enfin... Je reviendrai peut-être un peu du coup sur ta formulation, parce que moi je trouve ce qui est intéressant, c'est de dire l'Union européenne négocie actuellement le TTIP. Est-ce vrai? Puisque en fait, donc le TTIP, voilà, on va voir, c'est du coup essayer d'avoir des normes communes, du coup entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Union européenne. Sachant qu'à l'heure actuelle, les normes de l'Union européenne sont ce qu'elles sont. Elles protègent voilà, à divers niveaux, mais elles ne sont pas non plus parfaites, quoi. On pourrait carrément pousser plus loin dans ces normes. Sur le thème de l'agriculture, par exemple, hein, quand on voit que ça a été encore accepté au niveau des OGM, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et par contre, du coup, on va opposer ça avec les États-Unis, qui, eux, sont dans un modèle beaucoup plus libéral, qui, du coup, voilà, justement, il n'y a quasiment aucune norme, en tout cas, quoi. Donc, finalement, est-ce que l'Union européenne, actuellement, est réellement en train de négocier, on va dire, le traité de libre-échange, ou est-ce que les États-Unis sont en train de l'imposer à l'Union européenne? Bon, après, bien sûr que voilà, il y a tout un tas aussi, on va dire, au niveau des gouvernements de l'Union européenne, bien sûr, ils prennent part à ça, etc. Mais est-ce que finalement, on est en train de négocier le TTIP ou simplement de négocier la signature du TTIP?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le TTIP a vraiment été impulsé par le big business européen, par notamment Business Europe, qui a un gros lobby des grosses multinationales. Et donc, ça a été une initiative européenne de demander ce traité de libre-échange. Après, c'est clair qu'on est dans une position défavorable. C'est clair qu'on va beaucoup y perdre. Mais je pense qu'il faut le recontextualiser et faut le politiser. Et il faut arriver à mettre en évidence qui pousse pour ces traités de libre-échange, qui va y gagner. Et ceux qui poussent, c'est le lobby des grosses entreprises. On parlait d'agriculture, que ce soit pétrochimie, chimie, etc. etc. Et c'est eux qui poussent et c'est eux qui vont en gagner, quoi.
Tu crois? Mais c'est pessimiste.
Non, mais donc c'est ce qu'on observe depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on a des accords de libre-échange qui sont signés au niveau de la planète. Ce qu'on observe, c'est que les inégalités ne font qu'augmenter, qu'il y a des entreprises qui ont des pouvoirs de marché, qu'il y a des gens qui ont des capitaux qui en accumulent toujours plus. Et donc, en fait, on ne fait que mettre des politiques néolibérales qui font mettre plus de compétition et qui font en sorte que les inégalités augmentent. Et c'est Oxfam qui a sorti là récemment que 62 personnes détenaient environ 50% du capital mondial. Donc, c'est un niveau d'inégalité qu'on n'a jamais atteint. Et ça, c'est à cause des politiques de libre-échange, des politiques de libération des flux de capitaux et des politiques néolibérales de manière générale.
Est-ce que vous pensez que ces traités de libre-échange, qui sont quand même de plus en plus gros, qui englobent de plus en plus de richesses, hein, enfin qui englobent de plus en plus d'argent, finalement, de flux d'argent, est-ce que vous pensez que là, on en est au paroxysme du libre-échange, du capitalisme actuel, que là, on en est vraiment au point culminant, qu'on ne pourra pas aller plus loin?
Dans l'histoire de l'humanité, sans doute. Ça, il n'y a pas de doute. Parce que vu que l'idée, c'est de faire un grand marché sur deux continents, parmi les deux pôles économiques de la planète, c'est clairement ça. Donc, il n'y a vraiment pas de doute à ce sujet-là.
Donc là, on a le TTIP, c'est quand même les deux grosses puissances mondiales. Après, il y a d'autres accords qui sont également signés, comme vous l'avez dit, hein, depuis 50 ans. Est-ce qu'on peut à un moment dire non à ces accords une fois qu'ils sont signés? Est-ce qu'on a déjà vu ça, par exemple, dans l'histoire?
Pas que je sache, mais en tout cas, c'est la question de quelle va être la procédure, par exemple, pour le CETA. Donc, le CETA, c'est un accord de libre-échange qui a été négocié avec le Canada, entre le Canada et l'Union européenne, donc qui est à la phase maintenant de signature. Oui,
Ça va beaucoup mieux.
Ça va beaucoup mieux. Donc là, on est à la phase de signature. Donc chaque chef d'État va devoir signer le traité. Il y a déjà le Parlement wallon qui a dit qu'il ne laisserait pas la Belgique, l'État fédéral, signer. Et donc ça, c'est un caillou dans leur chaussure parce que ça pourrait compromettre la signature du traité. Une fois qu'il a été signé par les chefs d'État, il va devoir passer au Parlement européen. Et après ça, il va passer en application provisoire. Et donc il sera en application, mais il va devoir passer par les parlements nationaux. Et là, il y a quand même pas mal de parlements nationaux qui ont dit qu'ils le rejetteraient. Et donc, ça pourrait compromettre sa mise en application après la mise en application provisoire. Mais donc, toujours est-il que oui, c'est possible de le bloquer. Je pense qu'il y a 3 ans, quand on manifestait à Bruxelles avec l'Alliance des 19-20, l'unique retour presse qu'on avait, c'était l'infotrafic, n'allez pas à Schuman. Il y a des embouteillages, etc. Aujourd'hui, on en parle tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Et on a des victoires, notamment les victoires dans les parlements. Je pense que c'est des victoires de la société civile qu'on a réussi à arracher. Et donc, oui, je pense que c'est possible de l'arrêter.
Pour l'après, honnêtement, je ne sais pas comment est-ce que ça peut se passer. Enfin, quelle procédure il y a si demain, un pays qui a signé le traité de libre-échange veut quitter ce traité. Donc je vais m'aventurer un peu, mais je pense quand même que ça en revient à ça. À mon avis, on revient souvent à la convergence en fait de différents éléments. Et je pense que le premier élément, si demain un pays qui aurait accepté un traité de libre-échange veut quitter, c'est déjà qu'on ait un gouvernement progressiste qui arrive à la tête du pays et donc qui soit contre cette logique. Et la deuxième chose, qu'ils prennent ce qu'on appelle, en fait, c'est des mesures d'autodéfense ou un acte unilatéral souverain. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement qui est en place, le pays, applique réellement sa politique, c'est-à-dire ce pourquoi il a été élu et quels sont ses choix, sa vision. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut quitter, j'imagine un peu de manière brutale, le traité de libre-échange en question et qu'après, on se retrouve toujours un peu dans cette même compote, c'est-à-dire avec une certaine pression en fait des puissances occidentales en présence et qui du coup vont toujours répéter un peu ce qu'ils répètent toujours, c'est-à-dire on va vous bloquer l'accès au marché financier si vous prenez cette décision, on va intervenir de manière plus ou moins directe ou indirecte, et donc après tout dépend finalement ce gouvernement qui sera élu, s'il a la capacité et les épaules du coup pour réussir en fait à résister face à cette pression quoi et à tenir le cap. À l'heure actuelle, si on prend le cas de l'Union européenne, malheureusement je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un seul gouvernement progressiste à l'heure actuelle en Europe, après peut-être que j'en oublie mais il y a eu l'exemple de la Grèce avec Syriza et clairement c'est un échec. Et clairement, à l'heure actuelle, le gouvernement Syriza, représenté par Alexis Tsipras, ne fait pas ce pour quoi il a été élu. C'est un autre sujet que je ne vais pas aborder. Ce serait
intéressant, n'empêche. Hein.
Mais voilà.
Pour revenir plus directement au thème du débat, est-ce qu'on peut quitter un traité de libre-échange? En fait, oui. Le Brexit, c'est carrément ça. En fait, on quitte le libre-échange européen d'une certaine manière et ils sortent des négociations. Je suis aussi près du micro que je peux.
Oui, non.
Donc, pour faire le lien, en fait, le Brexit, c'est exactement ça. Ils ont quitté un traité de libre-échange qui est le traité de libre-échange européen, de la zone économique européenne et de la zone euro. Et donc, tout d'un coup...
Il y a un échange de micros, là, ici. Libre-échange de micros.
Et donc, tout d'un coup, ils sont en train de quitter la table des négociations du TTIP. Donc, tout est à renégocier de leur côté, du côté du libre-échange européen, mais aussi transatlantique. Donc, est-ce qu'on peut? Oui. Et j'espère que ça aura lieu jusqu'au bout, d'ailleurs. J'espère qu'il n'y aura pas un contre-référendum qui ira dans l'autre sens et qui reviendra en arrière. C'est un petit peu l'enjeu actuel.
Oui, parce que un pays se retire finalement des négociations. Hein, on peut le voir simplement comme ça. Donc après, on ne sait pas encore dans où ça en est avec le retrait. Oui, en effet. Mais donc un pays, là, déjà, se retire des négociations. Si on veut être logique, il faudrait repartir sur de nouvelles bases. Après, ça peut peut-être faire boule de neige aussi, si d'autres pays pourraient se dire « Tiens, mais nous aussi, du coup, on va se retirer, pas de l'Union européenne, mais des négociations. » Après, c'est peut-être dur de se retirer parce que c'est un package Union européenne. Donc, c'est peut-être un peu plus dur, du coup, d'un pays. Mais là, il faudrait de nouveau un gouvernement progressiste. Après, Camille, tu disais que, clairement, il y a des gouvernements, des parlements en Belgique, régionaux, qui ont dit, d'ailleurs, on ne signera pas. Je pense, par exemple, à Paul Magnette avec la région Wallonne, ou le Parlement Wallon, enfin bon, côté Wallon, qui a dit, nous, on ne signera pas. Est-ce que, du coup...
C'est plus que ça. C'est même, on ne laissera pas la Belgique signer. Quoi.
Et donc, du coup, si un pays de l'Union européenne ne signe pas, il se passe quoi ?
On a déjà vu ça avec d'autres traités, et ça met le Bronx, quoi.
Donc, c'est bien.
Oui, c'est bien. Moi je ne suis pas assez pointu pour savoir ça, même je pense qu'il y a des débats au niveau des juristes parce que ça arrive quand même pas super souvent. Et donc, c'est un peu le gros point d'interrogation, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais il faut rappeler que l'Union européenne, elle a reçu un mandat des chefs de gouvernement pour aller négocier ce traité. Donc à l'époque, c'était Di Rupo. Donc tous les chefs d'État ont approuvé le fait que la Commission négocie le TTIP pour l'Union européenne avec les États-Unis.
Donc voilà, ça risque de mettre un peu le bazar, donc d'allonger finalement ces fameuses négociations. Niveau du CETA, donc c'est ce traité qui est signé, enfin qui est... dont les négociations sont finies avec le Canada. On a l'impression que c'est moins important avec le Canada, parce que c'est pas les États-Unis, donc c'est moins méchant le Canada. Il y a des risques aussi ?
Oui.
Bah oui, disons.
Donc en fait... Il y a par exemple des entreprises aux États-Unis qui ont des filiales au Canada et qui pourraient utiliser ces filiales-là, par exemple, pour saisir les tribunaux d'arbitrage ou pour faire du commerce avec l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a une zone de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, oui, c'est possible. Et c'est en fait qu'un premier pas dans la porte. Et puis c'est aussi une victoire ou une défaite politique, ça dépend de quel point on se positionne et qu'est-ce qui se passera. Mais si on bat le CETA, alors il y a quand même forte chance qu'on arrive à battre le TTIP. Et à l'inverse, si le CETA passe, il y a quand même on aura beaucoup moins de chances pour faire passer le TTIP, pour arrêter le TTIP.
Mais ça, je ne comprends pas pourquoi, en fait. Pourquoi on nous dit que si le CETA passe, le TTIP passe ?
D'un point de vue politique, parce que dans les faits, c'est plus ou moins la même chose qu'on négocie. Et donc, pourquoi est-ce que les parlementaires vont accepter un truc et puis vont refuser l'autre ?
Parce qu'il y aura une mobilisation encore plus grande, parce que les gens, voyant que le CETA est passé, vont dire « Ah mais non, mais non !»
Et donc, c'est ce que nous, on essaye de faire, c'est faire monter la pression populaire, on essaie de faire augmenter la mobilisation. C'est pour ça qu'on fait un appel à des actions directes et des actions de désobéissance civile, parce qu'on veut augmenter la pression.
On veut augmenter la pression. Ben nous, on va l'augmenter la pression en mettant un peu de musique, par exemple. Non, mais je crois qu'il y en a un qui a un souci. On n'arrête pas de le changer. Mais non, il faudrait le mettre le plus loin possible.
Putain, c'est le noir que vous excluez.
Donc,
c'est le noir. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring. Morning dew on a red rose. Kiss me quick. Kiss me hard. Make it slow. Make it sound. Cheek to cheek. Just as long as you keep.
so much love and you give me those lips. Don't ever stop, but don't stop to kiss me quick. Kiss me hard, make it slow, make it sound, cheek to cheek, palm to palm. Just as long as you keep me close.
Eh bien, on écoutait Alani à l'instant. Alani qui sera, bah, évidemment, sur le festival Esperanza. Et ce sera même le dimanche, c'est tout, sur la scène côté jardin. On n'a pas encore, j'ai pas l'heure, mais voilà, elle sera là. Comme c'est noté, à mon avis, ce sera dans l'après-midi. Je n'ai pas les heures. Voilà, donc Alani, dimanche c'est tout, sur Sainte-Côte-et-Jardin. C'est sold out, donc il faut déjà avoir vos billets. Ou alors trouver des gens sympas qui revendent légalement, ou pas, leur ticket. Eh bien, nous sommes toujours donc sur Radio Esperanza, vendredi 5 août. Il est 15h, passé de 23 minutes, et on parle de TTIP dans le débat. Alors les débats cette année, je les ai intitulés de TTIP Horror Reality Show. Voilà, je vois ça. Après, comme en plus il y a un remake de Rocky Horror Picture Show, ben voilà, ça tombe bien. Donc voilà, TTIP Horror Reality Show. Alors dans notre idée aujourd'hui de parler Brexit et TTIP, il y a quand même des conséquences positives. Alors j'aime beaucoup ce terme, conséquences positives. C'est comme la discrimination positive, hein, voilà, il y a des trucs comme ça, conséquences positives du Brexit. Il y en a, on en a déjà parlé, mais Rémi, tu t'en as retiré quand même pas mal.
Oui, en fait, ce qui est intéressant avec le Brexit, c'est que, bien sûr, voilà, hein, dans les grands médias et tout, c'était oulala, c'est effrayant, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, et quelles conséquences ça va avoir, et pour les marchés, et pour les États, et pour le système bancaire, etc., etc., etc. Soit. Par contre, ce qui est intéressant, en fait, du coup, par rapport avec le Brexit, en fait, c'est que ça pose le constat de l'état de santé de l'Union européenne à l'heure actuelle. Donc voilà, les Britanniques ont voté contre le fait de rester dans l'Union européenne pour un certain nombre de raisons. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que du coup, il y a un réel désaveu de l'Union européenne et que du coup, en fait, les populations remarquent que ça fonctionne pas bien. Et donc, on peut le prendre, on va dire, sur plein de domaines différents. Mais donc, à l'heure actuelle, est-ce que les institutions européennes, donc à savoir la Banque Centrale Européenne, la Commission européenne et le Parlement européen, est-ce que ce sont des institutions démocratiques ou non? On a largement le droit de se poser la question à partir du moment où deux de ces institutions, les représentants ne sont pas élus, donc ils prennent des décisions sans que ce soit la voix du peuple, entre guillemets, puisque même quand ils sont démocratiquement élus, est-ce qu'ils appliquent leur programme? Voilà, c'est encore une autre question. Voilà, il y a ça, il y a aussi du coup toute la question en fait, donc qui a été la conséquence de la crise des subprimes en 2008, donc voilà, avec la grosse crise bancaire qui en a suivi, donc la crise du système financier, la réponse de l'Union européenne, quelle a été, c'est-à-dire ça a été du coup de sauver tout à fait le système bancaire et donc de faire assumer les pertes et leurs responsabilités aux citoyens européens. Quelle est la conséquence directe de ça? C'est aujourd'hui des politiques d'austérité qui sont similaires, tout à fait similaires dans tous les pays de l'Union européenne et avec les mêmes conséquences, pour le coup négatives dans ce cas-là, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, avec un renforcement des inégalités, un désengagement de l'État, une dette qui augmente de plus en plus. Et donc du coup, autant de budget qui ne va pas au service public, mais du coup qui va donc à remboursement d'une dette. Et donc là, en qualité de CADTM, je dirais d'une dette illégitime, puisque du coup, on a transformé une dette privée à savoir donc les conneries des banques, de Lehman Brothers, Goldman Sachs, BNP et compagnie, quoi. On a transformé cette dette privée en dette publique. Donc aujourd'hui, ce sont bien les résultats du dérèglement du système bancaire et du système financier qui sont payés par les citoyens. Et donc on paye ces politiques d'austérité. On le voit également donc avec la Grèce, j'en parlais tout à l'heure, mais donc on nous a bassiné avec les plans de sauvetage de l'Europe pour remettre la Grèce à flot. Finalement, on a imposé tout un tas de mesures d'austérité néolibérales qui n'ont fait qu'aggraver la dette de la Grèce tout en diminuant son PIB. Et à l'heure actuelle, en Grèce, oui, il y a une crise de la dette, mais à l'heure actuelle, en Grèce, il y a une crise humanitaire aussi. Et donc, ils sont là, les symptômes de l'Union européenne. Aujourd'hui, ça va très mal. Et on pourrait citer d'autres pays comme l'Espagne, par exemple, où il y a plus de 300 000 foyers qui ont été délogés. Encore une fois, c'est la conséquence directe de la crise des subprimes. Donc bref, je passe là-dessus, je fais vite. Mais du coup, c'est une bonne chose, ce Brexit? Voilà, donc ça questionne l'Union européenne en tant que telle. Et donc un grand pays comme la Grande-Bretagne qui prend cette décision, c'est clairement une remise en cause du système européen, et ça ouvre la brèche aussi pour d'autres pays. Je ne sais pas comment ça peut se greffer au niveau du TTIP, mais une des conséquences du Brexit, c'est que tout de suite, on a entendu, c'est en Écosse, on l'a entendu aussi, c'est au Pays Basque et en Catalogne, donc qui sont deux régions où il y a quand même des volontés indépendantistes dans le cas de l'Espagne. Et en fait, il se pose clairement la question, du coup, grâce à cette brèche entrouverte par l'Union européenne, si du coup, ce n'est pas le choix à suivre. Finalement, pour pouvoir mener sa propre politique de manière souveraine, chose qui n'est plus possible à l'heure actuelle dans le cadre de l'Union européenne. On le voit avec la monnaie, l'euro, bon, c'est encore autre chose, c'est l'euro, c'est pas l'Union européenne, mais on le voit avec ce cadre-là, où du coup ça enlève énormément de leviers de pouvoir pour les gouvernements, justement, pour pouvoir gérer les cas de crise. Pareil aussi au niveau des budgets, où les budgets sont totalement, comment dire ça, contrôlé en fait par l'Union européenne, puisque les gouvernements n'ont pas le droit d'être en déficit. Donc ça veut dire que du coup, par extension et en faisant un raccourci, grosso modo, les gouvernements n'ont pas le droit d'investir en fait dans les services publics. Et donc on nous fait payer une note en disant qu'on vit au-dessus de notre ceinture, etc. Mais pas du tout. Et donc ça, en fait, c'est les conséquences positives du Brexit. Oui, effectivement, il va y avoir un certain nombre de conséquences assez importantes à gérer. Il y a notamment le cas de l'Italie, qui a son économie qui est très liée à celle de la Grande-Bretagne et qui a ses banques qui en prennent du coup prennent de plein fouet en fait ce Brexit. Et il y a notamment la, alors je vais pas le dire parce que j'ai un très mauvais accent italien, mais il y a la plus vieille banque du monde du coup qui est en Italie et qui est en train de se casser la gueule, pour dire ça. Et donc ça, c'est en lien direct. Donc effectivement, il y a des choses à gérer, mais le Brexit, c'est vraiment une opportunité pour remettre en cause l'Union européenne et en reconstruire une autre. Je ne suis pas en train de dire là que je suis anti-européen, c'est pas ça, mais en tout cas en reconstruire une autre à la base de ce qu'elle voulait, c'est-à-dire c'était censé être une Europe démocratique, égalitaire et promouvoir des dimensions sociales.
Alors moi, je me souviens, en 2001, il y avait le premier sommet européen à Laeken. Donc c'est la première fois où les sommets européens allaient tous se passer à Bruxelles. Hein. On a l'habitude maintenant, mais le premier, ça a quand même été un truc assez fabuleux en décembre 2001, où il y a eu 3-4 jours de manif, et où vraiment il y avait la rue, les syndicats, tous les mouvements citoyens. Après, c'est ce qu'on disait hier sur le perron en buvant des bières, que c'était la suite de Seattle, que c'était le grand moment du mouvement altermondialiste, où finalement il y avait un super bélan. Mais là déjà, moi je me souviens, parce qu'on avait fait Radio Bruxelles, donc on avait couvert le contre-sommet européen de Laeken, il y avait déjà cette demande de transparence de l'Union européenne, cette demande aussi d'avoir une Europe beaucoup plus sociale. Ces mouvements-là ont continué à exister, ils existent encore aujourd'hui, mais donc en gros il faut attendre qu'un pays entier, par la voix de ses citoyens, s'oppose pour que peut-être on se pose des questions, alors que ces questions elles se posent depuis, ben voilà, entre autres depuis 2001, quoi.
Mais même, je dirais même plus. Moi, je dirais le traité, depuis le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht,
en 92 qui institutionnalise les déficits et des dettes limites, les dettes limitées à 60% du PIB, les déficits à 3%. Et on est dans c'est tout le cadre qui est à remettre en question, et c'est un cadre de politique néolibérale, de politique d'austérité. Et donc en fait il y a quelque chose où on a envie qu'ils se réveillent, quoi. D'un côté ils nous disent oui, mais personne n'aime l'Union européenne, mais pourquoi on n'arrive pas à vendre notre projet, etc., etc. Et d'un autre côté, ils mettent des politiques d'austérité qui tuent des gens, qui mettent des gens dans la misère. Ils négocient des traités de libre-échange qui vont encore renforcer le pouvoir des multinationales, qui vont encore renforcer l'impact sur l'environnement, qui vont encore renforcer les inégalités. Et pourtant, ils persistent et ils s'entêtent à mener ces politiques néolibérales alors que personne n'en veut.
Mais alors après, on peut rétorquer, mais alors qu'est-ce qu'on met à la place ? Parce que voilà, c'est toujours la question qu'on dit, la question qu'on pose. Le libre-échange, en effet, on en est arrivé à ses limites. Le système tel qu'on le vit, néolibéral, d'aujourd'hui, on connaît tous les limites, on les dit, on les répète, on les voit, on les vit, on les subit. Mais alors qu'est-ce qu'on peut mettre à la place ? Quelles sont les alternatives, du coup ?
Du coup, nous, en tant que TTIP Game Over, on est un appel où il y a beaucoup de gens qui ont des avis différents et où notre objectif, c'est de se concentrer ensemble sur quelque chose où on est sûr, pour lequel on est contre, c'est ces traités de libre-échange. Après, moi, je vois que les alternatives, il y en a plein. Il y a des gens qui le montrent tous les jours. Et ce pour quoi on se bat, c'est pour une société plus égalitaire, c'est pour une société plus démocratique. Donc moi je pense que ça passe par plus de régulation, par un encouragement à l'économie locale, etc. Donc je pense que les alternatives sont là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après c'est clair que des gens ont plein de visions différentes, mais pour le moment ce sur quoi on est sûr, c'est que cette Europe néolibérale, on en est contre.
Rémi ?
Bah du coup, un des moyens, je pense quand même que ce qui est important, du coup, c'est la base sociale et les mouvements sociaux. Et ça, il faut revenir aussi. Et donc voilà, si on retrace un peu ce qui s'est passé ces 10 dernières années, bon voilà, on peut au moins nommer 3 mouvements, à savoir aux États-Unis, et que ça s'est propagé un petit peu partout. Donc il y a eu Occupy Wall Street. Donc pareil, conséquence directe de la crise des subprimes. Derrière, il y a eu les indignés en Espagne. Et puis, donc là, on vient de connaître en France et peut-être dans une moindre mesure en Belgique et partout ailleurs, puisque ça a quand même eu une portée internationale, il y a eu les Nuits debout. Mais du coup, bon, voilà, le but, c'est pas forcément de tirer, on va dire, les conclusions de ces mouvements. Est-ce que c'est un succès ou pas ? Est-ce que ça va renverser l'ordre établi ? Bon, tout de suite, la réponse est non. Par contre, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai vraiment trouvé... qui m'a donné beaucoup d'espoir par rapport aux Nuits debout, à ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les gens se sont repolitisés et se sont tout simplement même réconciliés avec la politique, parce que à l'heure actuelle ce qu'on entend c'est ouais mais le système politique et tout, c'est tous des corrompus, c'est tous des pourris, etc. Et je suis d'accord avec ça, globalement moi je suis d'accord avec ça, mais par contre les gens du coup ils faisaient le lien, un mauvais lien entre les politiciens et politiciennes et la politique. Mais eux, les politiciens et politiciennes à l'heure actuelle, ne représentent pas la politique. Et faire de la politique, c'est pas dresser un programme, c'est tout simplement s'intéresser justement aux alternatives. Après, chacun a ses idéaux et du coup, ses manières de penser. Mais en tout cas, il y a eu une réappropriation de ça. Et donc, on entendait beaucoup de gens dire « Ah, mais moi, je suis apolitique. » Et je pense que rien que là où ça a avancé, c'est qu'on a réussi tous ensemble, en tout cas, de dire aux gens « Non, tu es pas apolitique, tu es aparti. » Donc tu ne te reconnais pas dans des partis politiques, mais par contre là, le fait que tu te conscientises, que tu discutes avec tout le monde, que tu te rassembles, que tu cherches des solutions, c'est ça la politique. Voilà. Et donc, du coup, c'est intéressant. Et donc voilà, un des exemples comme ça, qui à mon sens est un mauvais exemple, mais il y a Podemos. Donc voilà, Podemos, donc ce parti de gauche, bon, progressiste, mais j'ai envie de le mettre entre guillemets maintenant, qui a émergé en Espagne après le mouvement des indignés. Voilà, c'en est un exemple concret. Du coup, les gens depuis la rue sont réussis à arriver, on va dire, au niveau de la politique et du coup, arriver aux élections, etc. Bon, après, du coup, pour faire très court, Podemos se ramollit petit à petit. Bon, voilà, c'est des différences de point de vue, mais en tout cas, il n'est plus du tout aussi radical et progressiste que lorsqu'il était dans la rue, quoi.
Voilà. Mais là, toutes ces initiatives, en fait, ont évidemment le mérite d'exister. Et j'ai l'impression que plus tout va mal, parce que là, on peut dire, hein, tout va mal. Soyons pessimistes quelque part, mais plus il y a des alternatives qui se créent, qui à la limite vont se planter. On voit Syriza donc aussi, tant que c'était dans la rue, ça marchait bien. Une fois que c'est en parti politique, voilà, ils sont soumis à des pressions dans tous les sens et ils ne parviennent pas à maintenir leur programme. C'est la même chose pour, à mon avis, pour Podemos. Mais justement, c'est après, ça, c'est mon impression à moi, toute personnelle, et de la bonne journaliste que je suis, tiens. Que la population, en fait, réagit à la crise qu'on connaît actuellement, à la situation actuelle du monde, en soit, justement, je m'associe à des alternatives qui naissent, j'en crée moi-même dans mon quartier, circuit court, ville en transition, je vais à Esperanza, je vais manifester contre le TTIP et tout ça. Et d'un autre côté, il y a un repli sur soi et un vote nationaliste. Enfin, il y a quelque chose de repli identitaire et justement de vote de... J'ai plus envie de dire de contestation parce que là, ça devient de gros n'importe quoi. Mais justement, d'aller vers ce côté nationaliste, j'ai l'impression que la société se divise vraiment maintenant en ces deux pôles. Vous avez un peu cette impression-là aussi de réaction un peu binaire?
Oui, c'est clair. Nous, on porte un message critique vis-à-vis du système. Je pense qu'il y a des partis populistes d'extrême droite qui portent aussi un discours critique vis-à-vis du système. Mais pourtant, eux, ils ont aussi un message intolérant que nous, on combat. Et donc, c'est clair que... en fait, à force de mettre cette précarité, d'augmenter ces inégalités, de mettre des gens vraiment dans la rue et dans la misère, en fait, on renforce l'extrême droite. Et c'est là où nous, en tant que progressistes, on doit vraiment se battre pour avoir des victoires et pour empêcher ce vote nationaliste.
Vous avez l'impression que dans vos assos, dans vos collectifs respectifs, il y a de plus en plus de monde qui adhère et de jeunes, par exemple?
Oui.
Oui, énormément. Moi, je vois toujours des nouveaux militants qui arrivent, qui s'intéressent, de plus en plus jeunes, qui viennent avec un bagage beaucoup plus peaufiné mentalement. Donc les gens sont plus informés qu'avant, et même dans mon entourage, j'ai des personnes vieilles qui ne s'intéressaient pas à la politique. En fin de souper, ça peut durer 2 heures de plus en parlant de l'actualité, et pas seulement avec le point de vue mainstream qu'on entend tout le temps dans les journaux, mais avec un discours éclairé et bien informé en plus. Donc je pense que ça évolue, oui.
Oui, nous on essaye de faire en sorte que les gens puissent s'organiser. Donc c'est là un peu le cœur de l'appel TTIP Game Over, c'est d'arriver à ce que les gens puissent organiser des actions, participer à des actions, etc. Dernière formation qu'il y avait eu avant Paris, c'était dans le cadre des Climate Games, c'est aussi Action des Obéissances Civiles, il y avait 200 personnes. Alors que pour des actions directes, il y a 2 ans, on avait beaucoup moins de gens. Quand il y avait eu le blocage du sommet européen, je pense qu'il y avait 5-6 personnes qui s'étaient attachées pour bloquer le sommet. Là, cet été, il y a eu une action contre le centre de négociation, contre les négociations sur le TTIP qui avait lieu à Bruxelles. Il y a eu 18 personnes qui sont attachées. Il y avait une centaine de personnes qui étaient prêtes à aller à l'arrestation, qui disent bah, « Nous, en fait, on est prêts à subir une arrestation administrative, ça ne nous fait pas grand-chose, et on est prêts à aller jusque-là. » On voit en fait que les gens sont de plus en plus déterminés, de plus en plus organisés et prêts à aller jusqu'au bout pour lutter contre ces traités de libre-échange et contre ces politiques néolibérales.
Et d'ailleurs, on voit sur le site de TTIP Game Over, formation à l'action. Donc ça se passera à Bruxelles les samedis 10 et 11 septembre. Et donc là, c'est formation, entraînement, speed dating, donc constitution de groupes affinitaires, briefing légal, préparation d'action directe, atelier d'outillage pour l'action, échange de savoir. Mais c'est vraiment conscientiser en fait les gens sur les actions qu'on peut faire et qui sont tout à fait légales. Mais
non, pas toujours. Donc il y a vraiment cet aspect. Il y a vraiment cet aspect des obéissances civiles.
Oui, mais la désobéissance civile n'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas violent.
Non, mais donc
c'est-à-dire oui, légal violent, faut faire la différence.
Oui, c'est pas la même chose. Donc et même dans violent, il y a encore beaucoup de débats sur ce qu'on pourrait y mettre dedans. Mais oui, on fait le choix de désobéir
avec un choix qui est réfléchi, un choix qui, où en effet on réfléchit aux conséquences juridiques de nos actes, mais en disant on pense que notre acte est pertinent, légitime et nécessaire, qu'on doit pouvoir agir en dehors du cadre légal pour pouvoir augmenter la pression et pour pouvoir poser notre acte.
Moi, je trouve ça réjouissant, en fait, de voir des initiatives pareilles, en fait, parce que ces dernières années, après, c'est mon point de vue, hein, donc vous allez peut-être me dire que c'est pas vrai du tout. Ces dernières années, je parle des 15 dernières années, il y a 10-15 ans, j'avais l'impression d'un certain immobilisme, on avait beaucoup de mal, en fait, à rassembler les gens pour se battre contre quelque chose. Bête chose, c'était quand les États-Unis ont envahi l'Irak, par exemple, il y a eu des manifestations et en même temps c'était difficile de rassembler les gens pour le faire, de se battre contre, enfin après vous allez me dire en manifestant, mais si, en manifestant on peut le faire, de mobiliser les gens là-dessus. Il y a eu les sans-papiers par exemple à l'ULB, rassembler les gens pour aller faire des AG, pour voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour ces sans-papiers qui ont trouvé refuge à l'ULB, qu'est-ce qu'on va faire, et c'était difficile de rassembler les gens, et là j'ai l'impression qu'il y a de nouveau un élan d'envie de se mobiliser, d'envie de faire bouger les choses qu'on avait perdu il y a peut-être 10-15 ans. Je sais pas, vous êtes pas trop jeune pour dire ça. Hein.
Mais en fait, j'ai un petit peu envie de dire, dans notre malheur, on a de la chance, puisque là, si on vraiment regarde sur les quelques derniers mois, et puis le mois, ce qui est en train de se passer actuellement, en fait, on est sur deux sujets super porteurs. Parce que du coup, c'est ça aussi qui fait qu'il y a plus de monde, je pense, c'est que là, actuellement, on parle du TTIP, et le TTIP, bon, c'est quelque chose quand même d'envergure sur lequel on sensibilise depuis un bon moment, et ça concerne tous les citoyens, du coup je pense que c'est très porteur. Et puis du coup je pense à décembre à la COP21, où du coup c'est pareil, c'est le changement climatique, c'est global, c'est tout le monde. Donc à partir du moment où on a cette fibre, j'ai envie de dire que voilà, forcément du coup ça ramène des personnes. Et après j'avais envie de dire une chose aussi d'importante par rapport au fait de s'engager comme ça, et qui à mon sens n'est pas assez dite, parce que souvent on est vu un peu comme des ovnis, ou des militants, voilà, on va désobéir, quoi. Mais bon, en fait, on n'a rien inventé. Comment dire ça ? Je crois que ça marche plus. On rénove et voilà, on se réinvente et on innove, etc. Bien sûr que du coup, on se réinvente. Mais il faut quand même rappeler, et l'histoire nous le rappelle, que toutes les luttes sociales, enfin toutes les choses qu'on a pu gagner, c'est parce que les gens, ils ont désobéi, c'est parce que les gens, ils ont été dans la rue, c'est parce que les gens, ils sont justement appropriés. Ils se sont réappropriés le monde politique et leur vie personnelle, tout simplement, ils sont impliqués. Et ça, vraiment, je voudrais appuyer là-dessus, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu vu comme ça, de manière totalement déconnectée, comme si, voilà, on était des ovnis, mais non. Enfin, je veux dire, l'histoire le montre, à chaque fois qu'il y a des avancées sociales, c'est parce que les gens, ils se mobilisent tous ensemble, collectivement, démocratiquement, et qu'ils veulent aller tous ensemble dans le même sens, quoi. Et donc ça, je voulais vraiment appuyer là-dessus.
L'histoire se répète ? Et doit se répéter. Enfin, pas pour tout, hein. Mais
La vie est un combat sans fin, il me semble. On a toujours des luttes devant nous. Il faut toujours viser le progrès, de toute façon. Sinon, ça voudrait dire qu'on se satisfait et qu'on considère d'être dans un modèle parfait. Ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas le cas, mais il y aura toujours des combats à mener.
La révolution est en marche ?
Complètement.
Ah ben, oui. Tant mieux, parce que moi, c'est ce que je me dis, c'est que la révolution est en marche, on est occupé à la vivre, on s'en rend peut-être pas compte. Enfin, vous, oui, sûrement, mais il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Mais là, j'ai envie de pousser le truc un peu positif. Là, pour moi, le monde change actuellement. Mm-hmm. Et dans le bon sens, enfin, dans le mauvais sens, mais il y a le bon sens qui pousse le mauvais sens sur le côté. Et c'est grâce à des gens et des associations comme vous que ça peut se faire. Donc, merci beaucoup à vous.
Merci pour la place.
Merci pour l'invitation.
On vous retrouve au Village au Possible à partir de 15h, à partir de...
Bah, tout non, le week-end. En fait. À partir de tout le week-end.
Tout le week-end. Là, c'est sur Esperanza, dans le Village au Possible, dans la ville de Fleuref, mais après aussi. Donc, il y a le site du CADTM Belgique, enfin, CADTM Général aussi.
Oui, CADTM.org, voilà.
.org. Il y a TTIP Game Over.
.net.
Oui, je cherche où est l'URL dans ce truc. .net. On vous trouve partout. On vous retrouvera d'ailleurs le 20 septembre pour la grosse
oui,
mobilisation.
20 septembre, grosse manif à 17h en quartier européen. Et là, c'est contre le CETA.
Contre le CETA tout court.
Le CETA.
Ouais, mais bon, après, on les englobe tous et c'est parti.
C'est clair. Nous, on se bat contre les traités de libre-échange, mais on a choisi cette date parce que le lendemain, il y a une réunion importante à Bruxelles qui prépare le sommet européen du 27 octobre. Où là, il va y avoir une signature normalement attendue du TTIP, du CETA. Pardon.
Voilà, donc tout ça, ben, on y sera. Vous y serez aussi CDTM, j'imagine.
On va en faire un petit tour.
Ouais, je vais voir dans mon agenda. Quoi.
Monde, hein, ça, c'est sûr.
En tout cas, nous, on y sera. Radio Esperanza, on va créer une mobilisation radiophonique autour aussi. Parce que je sais déjà que Radio Panique y sera, que Radio Campus y sera aussi. Donc, bim, on va y aller. On va faire péter tout ça. Voilà, ben, merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous souhaitant un très bon festival.
Et pareil, bon, également.
Et peut-être un autre jour pour un autre débat sur un autre sujet sur le TTIP. Voilà, ben, merci
avec
à vous.
Plaisir.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre. On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be, mais aussi en FM sur les ondes des radios partenaires.
Radio Panique.
Radio Panique.
105.4 à Bruxelles.
Radio Campus Bruxelles, 92.1.
Radio Larzac.
Sur
87.8.
Et 98.6.
48 FM.
48 FM sur 105.0.
Vous nous écoutez sur Rhône.
88.1.
Radio Campus Amiens sur 87.7.
UFM 106.9 à Mons.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.